Et le 30 mai. Du 20 mai au 20 juin, l'exposition. Et le 30 mai, la fête des voisins et le concert du jardin musical. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner au centre André Malraux directement ou au 02 35 08 88 99.
Merci beaucoup, c'est complet et c'est clair. Merci Johan pour toutes ces infos. Allez, on va avoir les idées noires avec un certain Michel qui va vous parler d'une certaine bande dessinée et d'un certain auteur juste après ce jingle.
Alors, Franquin, vous vous souvenez de lui? Bah, vous vous souvenez pas. J'interroge là autour de la table. Franquin, ça vous dit rien? Non, ça rigole. Gaston, oui, Gaston ça quoi rigole. Gaston Lagaffe, merci. Alors, pour vous parler un petit peu de Franquin, faut vous dire que dès l'enfance, Franquin avait continuellement un carnet à la main. Il dessinait tout le temps. Bon, il captait un sourire et là, hop, il le croquait au crayon. Une beauté éphémère d'à peine une seconde, voilà, un sourire qui devient visible pour des siècles, et ça grâce à son talent. C'est beau, c'est romantique. Mais il avait aussi des idées noires, Franquin. Alors, imaginez par exemple une planche, il ne faut pas confondre surgénérateur et centrale à comique. Alors là, attention, c'est le DRH parce qu'on reçoit le ministre qui va faire la visite. Oui, monsieur le ministre, grâce à la hardiesse de notre politique énergétique. Alors là, le DRH est encore pire, il a les mains qui s'agitent maintenant. Bientôt, sur tout notre territoire, les centrales nucléaires pousseront comme... des champignons, évidemment. Magie de Franquin. Alors, cette planche que je viens de vous décrire, et c'est pas facile de décrire une planche de BD à la radio, elle a été publiée pour la première fois le 7 avril 1977 dans le magazine Le Trombone Illustré, un supplément du journal Spirou. Soit 9 ans avant l'accident de Tchernobyl, on fête les 40 ans cette année, c'était le 26 avril 1986. Et mieux, le dessin est publié 2 ans avant l'accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island aux USA, survenu lui le 28 mars 1979. Pour les deux cas, c'est un problème de surchauffe d'un réacteur et de gros dégâts qui s'en suivent. Alors, même si les conceptions techniques des deux réacteurs, l'américain et le russe, sont très différentes, c'est à chaque fois une erreur d'interprétation, pardon, de données. Plus différents facteurs mis bout à bout qui ont abouti à aux catastrophes. Alors, plus tard, le 11 mars 2011, c'est l'accident de Fukushima. Ben, ça, c'est aussi à cause du tsunami, oui, mais pas que. Alors, petite souris que je suis, vous savez que j'aime bien souvent me mettre comme dans une position de petite souris. Et justement, en parlant de position, moi je ne prends pas position sur la nécessité du nucléaire ou de son abandon. De toutes les manières, vous avez découvert, enfin vous les humains, nous avons découvert la recette de la fission de l'atome lourd. Mais au fait, c'est quoi la fission de l'atome lourd? Il y a quelqu'un qui sait?
Non.
Bah non. Alors voilà, il faut que je vous étale ma science. Alors, vous imaginez, si vous recevez un piano à queue sur la tête, vous allez vous écrabouiller. Et vous êtes d'accord ou pas? Tu reçois Jean Chouinard. Tout à fait. Voilà. Eh ben, figure-toi qu'un atome lourd qui va recevoir comme ça l'équivalent d'un gros piano à queue sur la tête, eh ben, il va pas finir en chair à pâté, mais en cent. Imaginez, moi, petite souris, si je recevais, un piano à queue sur la tête, mais que j'étais en réalité un atome lourd, eh ben, ce sont des centaines de mini-souris ultra énergétiques, eh ben, qui rayonnent ensuite dans toute votre maison. Alors, en résumé, comme le dessine Franquin, l'important, ce ne serait pas de permettre l'exploitation de la fission de l'atome dans des centrales à comique. Parce que sinon, quoi? Eh ben, c'est peut-être un gros champignon. Et la semaine prochaine, ben, je vous parlerai aussi de Franquin et de ce qu'il imagine pour la suite avec le nucléaire. À bientôt.
À suivre évidemment la semaine prochaine autour de cet auteur. Merci beaucoup Michel. Aujourd'hui, monsieur Naïm, vous savez qu'on est le 20 mai?
Tout à fait.
Et vous savez que des gens fêtent leurs anniversaires?
Entièrement d'accord.
Aujourd'hui. Et c'est madame Sonia qui va nous le révéler aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent assez régulièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Imane n'est pas là dans le studio.
Ah oui. Oui, c'est vrai.
Et oui, tout simplement parce qu'elle fête son anniversaire et on lui souhaite bien évidemment
un très joyeux anniversaire.
Tout à fait. Et du coup, moi, en préparant l'émission, bah, je me suis dit, c'est son anniversaire, quelles personnes sont nées le même jour qu'elle aussi? Et du coup, je me suis un peu intéressée niveau célébrité, etc. Alors, on va commencer par trois personnes. Tout simple. Alors, on a Josh O'Connor, c'est l'acteur britannique que vous avez sûrement vu dans la série The Crown. Il joue le Charles plus jeune. Il a également joué dans le film Challengers aux côtés de Zendaya, mais également dans le film Emma de 2020, ou encore plein d'autres films.
On ah bah pourrait oui, avoir. Très connu.
Ah oui, il est très connu. Moi, je trouve qu'il ouais, est assez connu. Après, dans. Enfin, un petit bond dans le temps, ouais. Dans les années 80. Ouais.
Un petit bond dans le temps.
On a Elsa Lunghini, interprète des tubes incontournables de T'en vas pas et Roman d'amitié. Je sais pas si
écoutez.
Vous connaissez ça.
Écoutez, non mais Sonia, on va pas révéler nos âges, mais alors déjà, nous pour notre génération, c'était Elsa et non pas Elsa Lunghini, hein. Et forcément qu'on a tous bloqué un moment sur cette chanson vu qu'elle passait très souvent à la radio dans les années 80.
Il y a même eu un clip à l'époque, pardon.
Oui, bah, comme beaucoup dans les années 80, effectivement. Bravo.
Ah non, mais oui, moi j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit mais moi je kiffais, et, je pleurais sur T'en vas pas et Roman d'amitié, elle me l'a chanté pas plus tard que ce matin.
Avec. Élie Medeiros, le crush d'Elsa Lunghini. Eh ouais, on peut vous faire aussi nos secret girls aussi et tout quoi, ce matin.
Et à l'heure actuelle, bah, elle est actrice dans la série TF1 Ici tout commence. Du coup, on la voit toujours à nos écrans. Si ça vous intéresse, elle est là.
Oui, mais elle ne chante plus.
Oh, peut-être, mais je sais pas. En tout cas, pas à la télé.
D'accord,
en cachette.
Peut-être. Et du coup, pour un dernier point, une dernière grande star, on a Cher, véritable icône de la pop et de la musique. Que vous connaissez sûrement pour le tube planétaire Believe ou encore The Choup Choup Song dans le clip qui arrive.
Ah ouais.
C'est magique la technologie.
Très vite avant que tu termines, Cher, il faut absolument la voir dans un film qui s'appelle Mask, un film absolument extraordinaire. Mm-hmm. Voilà, voyez-le dans ce film. Cher, aussi une excellente actrice. J'ai fini.
Elle a également été apparue dans Mamma Mia, dans le dernier Mamma Mia, elle est apparue. Et dans ce clip-là, justement, de The Choup Choup Song, il y a les grandes actrices de Winona Ryder et Christina Ricci, l'interprète originale de Mercredi Adams. Bon, on finit tout ça avec encore une fois un très joyeux anniversaire à Iman et à toutes ces stars réunies au même jour qu'elle finalement.
Dont Iman,
oui.
Évidemment. Happy birthday to you, Iman.
Et on lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire encore. 8h59 et 46 secondes, pour ne rien vous révéler, on va dépasser quelque peu car il est encore là, il est toujours présent hein, malgré la fin de saison. C'est monsieur Jean-Charles pour le Spring des Scores. Bien évidemment tout de suite sur les ondes du Mix des Cultures.
Écoutez RFI, il est 9h à Paris, 15h à Pékin. Et c'est le journal tout de suite, avec vous Julien Coquel-Rohem.
Et à la une, Andréane, Pékin à nouveau au centre du monde diplomatique ce matin. Après Donald Trump, la semaine dernière, Vladimir Poutine, reçu tout à l'heure par Xi Jinping. Discussion stratégique et messages géopolitiques. On appelle notre correspondante à Pékin dans un instant. L'actualité ce matin, c'est encore Donald Trump qui menace de nouveau de frapper l'Iran. Dans notre dossier du jour, on repose les bases de la question du nucléaire iranien sur laquelle les discussions continuent de buter. Dans l'actualité également, l'alerte de l'OMS sur l'ampleur et la rapidité de l'épidémie d'Ebola. Reportage en RDC à Bounia dans l'Itourie où la population se met aux gestes barrières. Et puis quand la génétique ressuscite un animal disparu depuis des siècles, une entreprise américaine progresse dans ce sens et cela pose, vous l'entendrez, des questions scientifiques et éthiques.
Une relation inébranlable malgré les épreuves.
C'est ce que salue Xi Jinping et ce que le président chinois et Vladimir Poutine ont cherché à afficher ce matin. Une semaine après Donald Trump, le président russe reçu à son tour avec les honneurs au Palais du Peuple à Pékin pour afficher la solidité du partenariat sino-russe dans le contexte international qu'on connaît. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Derrière les déclarations d'amitié, la Chine et la Russie veulent montrer qu'elles entendent peser ensemble dans le nouvel l'ordre mondial qui se dessine.
Exactement. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affiché une relation à un niveau sans précédent, selon les mots du président russe. Les deux dirigeants ont renouvelé leur traité d'amitié et multiplié les critiques contre, je cite, l'unilatéralisme, les contre-courants hégémoniques et la loi de la jungle dans les relations internationales, des attaques visant clairement Washington. Les deux pays veulent un monde, je cite, polycentrique, moins dominé par les États-Unis, une manière aussi pour Pékin de rappeler qu'il peut parler aussi bien avec Donald Trump qu'avec Vladimir Poutine. Au cœur des discussions, l'énergie l'énergie, fragilisée par les sanctions occidentales depuis la guerre en Ukraine. Et bien la Russie veut renforcer ses exportations de pétrole et de gaz vers la Chine. Moscou pousse notamment le projet géant de gazoduc Force de Sibérie 2, destiné à acheminer du gaz russe vers le nord de la Chine via la Mongolie. La guerre au Moyen-Orient renforce aussi l'importance de ce partenariat énergétique, parce que les tensions dans le détroit d'Ormuz, et bien avec cela, et bien Moscou tente de se présenter, si vous voulez, comme une alternative fiable pour sécuriser les approvisionnements chinois. Et au-delà de l'économie, et bien cette visite avait aussi une portée symbolique. En recevant Trump puis Poutine à quelques jours d'intervalle, Xi Jinping cherche à installer Pékin au centre du jeu diplomatique mondial, Julien.
Cléa Broders à Pékin pour RFI, merci beaucoup. Au sujet du Moyen-Orient, le président chinois Xi Jinping juge ce matin qu'une reprise du conflit serait inopportune, à bon entendeur pour Donald Trump, qui a de nouveau menacé de frapper l'Iran. Hier, il entretient le flou sur le délai qu'il serait prêt à accorder à Téhéran pour revenir à la table des négociations. L'Iran qui menace en retour d'ouvrir de nouveaux fronts contre les États-Unis en cas d'une reprise des frappes.
Et parmi les points de blocage entre Washington et Téhéran, il y a toujours la question du nucléaire.
Alors que Donald Trump dit toujours vouloir empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire et que le sujet est omniprésent dans les discussions, quelques questions de base dans notre dossier ce matin. Qu'est-ce qu'un programme nucléaire? Où en est l'Iran? Alors que les États-Unis l'ont attaqué à deux reprises en moins d'un an. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
On révise les fondamentaux avec vous ce matin. D'abord, tout simplement, que faut-il pour fabriquer une bombe atomique?
Un minerai de l'uranium. Une fois extrait, on lui donne la forme d'un yellow cake, gâteau jaune, une matière qui sera ensuite enrichie, c'est-à-dire rendue plus concentrée avec des machines que l'on appelle des centrifugeuses. Alors jusqu'ici, on parle d'un processus commun aux usages civils, la production d'électricité dans une centrale nucléaire, et aux usages militaires, la fabrication d'une bombe.
Où en est l'Iran concernant cette première étape, celle de l'enrichissement?
Alors c'est ici que notre petit exposé sur comment fabriquer une bombe atomique rejoint l'actualité la plus brûlante. Une bonne partie de ce qui se joue en ce moment, c'est le devenir d'un stock d'uranium enrichi par l'Iran. C'est ce que nous explique la chercheuse Héloïse Fayet de l'Institut français des relations internationales.
Ce sont bien évidemment les 440 kilos d'uranium enrichi à 60% qui sont les plus préoccupants, car c'est ce stock que l'Iran pourrait utiliser si jamais il décidait de fabriquer une arme nucléaire. On estime qu'il y a une partie toujours enterrée effectivement dans certains sites nucléaires iraniens, enterrée en fait depuis juin 2025, donc depuis les premières frappes israéliennes et américaines.
Précision importante, hein, pour des applications civiles, on enrichit l'uranium à 3% environ et à 90% pour une bombe atomique. Ces dernières années, l'Iran, vous venez de l'entendre, a fait la plus grande partie du chemin en enrichissant à 60%.
En théorie, l'Iran est donc proche de l'arme nucléaire.
Eh bien non, car un stock de matière nucléaire ne fait pas une bombe, c'est ce que rappelle la spécialiste de la prolifération nucléaire, Héloïse Fayet.
Ce qu'il faut surveiller, en fait, ce sont pas tant les reprises des activités d'enrichissement que le début d'activités de militarisation de cette matière, d'arsenalisation, de miniaturisation. Et ça, ce sont vraiment les processus qui montreraient que l'Iran a choisi vraiment d'avancer, en fait, vers le développement d'une arme nucléaire. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui.
On ne voit pas la volonté iranienne d'avancer vers l'arme nucléaire, c'est ce que nous dit Héloïse Fayet de l'IFRI.
Il faut quand même souligner que les progrès de l'Iran n'ont plus rien à voir, et depuis longtemps, avec les critères d'un programme nucléaire civil. C'est ce qui fait de ce dossier une crise de prolifération qui dure depuis des décennies. L'Iran a toujours dit qu'il ne voulait pas la bombe, et pourtant il s'en approche. Scénario insupportable pour Israël comme pour les États-Unis. L'accord nucléaire de 2015 a brièvement permis de limiter et de surveiller le programme iranien, accord déchiré par Donald Trump, celui-là même qui, après avoir bombardé l'Iran, parle aujourd'hui d'un accord possible. Enfin, rappelons que la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, c'est Israël qui ne l'a jamais officiellement reconnu.
Nicolas Falaise pour notre dossier du jour. Merci beaucoup.
À la une également, Julien, l'OMS qui alerte sur l'ampleur et la rapidité de l'épidémie d'Ebola.
Alors que la République démocratique du Congo dénombre 136 décès probables et 543 cas suspects, que l'Ouganda fait état d'un cas suspect et d'un mort, l'Organisation mondiale de la santé doit annoncer aujourd'hui ses recommandations pour lutter contre la propagation. La riposte s'organise aussi dans l'épicentre de la contagion, la province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC, où les premiers cas ont été signalés la semaine dernière. Hier mardi, plus de 16 tonnes de kits et médicaments ont été réceptionnés à Bounia, le chef-lieu de la province où les habitants s'organisent. Alexandra Branjon.
Depuis lundi, chez les différentes radios de la ville, ville diffuse des messages de sensibilisation en langue locale. Lavez-vous les mains, portez un masque, évitez de vous serrer la main. La population prend ses consignes très au sérieux, explique un habitant, selon qui plus de la moitié des gens dans la rue portent un masque, y compris les chauffeurs de moto, ajoute-t-il. Les écoles sont restées ouvertes. Là aussi, les consignes sont appliquées à la lettre, explique Marthe Dévé, mère de 4 enfants.
Là où mes enfants étudient, on a exigé les masques. Tout, ils ont mis de dispositifs de lavage de mains. Il y a le thermomètre à l'entrée d'ailleurs pour prélever les températures. Et puis, ils ont aménagé des salles supplémentaires pour que les enfants ne soient pas attassés.
Le lavage de mains a été renforcé dans les établissements scolaires, les administrations, les bureaux, les banques. Mais l'épidémie a provoqué une flambée des prix, déplore Jean Bosco Kisoké de la société civile.
Par exemple, le cachinet qui s'est vendu à 500 francs au marché, maintenant ça se va au prix double, à 1000 francs. Les désinfectants qui étaient à 4000 francs, vous trouvez maintenant à 8000 francs et à 10000 francs. Or, par rapport au coût de la vie, c'est un peu compliqué. Et surtout, on ne va pas demander à une personne déplacée qui n'a pas d'argent d'acheter un désinfectant à ce prix-là.
Cette hausse des prix complique les efforts de riposte, ajoute-t-il, notamment pour les plus vulnérables économiquement. Les acteurs humanitaires craignent notamment une propagation du virus dans les différents sites de déplacés autour de Bounia, qui accueille plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Alexandra Branjon, et malgré l'épidémie d'Ebola, l'équipe de football de la RDC pourra bien participer à la Coupe du Monde 2026, l'annonce hier de Washington. Alors que les États-Unis ont annoncé lundi l'interdiction d'entrée dans le pays des ressortissants étrangers passés par la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours, c'est le délai d'incubation du virus.
C'est une vague qui continue de s'abattre. L'intelligence artificielle de nouveaux responsables de licenciement.
Hier mardi, la banque Standard Chartered a annoncé la suppression de 7000 effectifs d'ici 2030. C'est hier aussi que la maison mère de Facebook, Meta, a dit vouloir se séparer de 10% de ses 80 000 employés, avec toujours la même raison invoquée, une nouvelle organisation des entreprises orientée vers l'intelligence artificielle, Pierre-Olivier.
Les mots du PDG de la banque Stanchart sont sans équivoque. Avec ses 7000 licenciements, l'IA doit, je cite, « remplacer un capital humain de moindre valeur ». De son côté, Meta, en plus de remercier 10% de ses employés, parle plus pudiquement de déplacer d'autres effectifs vers de nouvelles initiatives liées à l'IA. Dans les deux entreprises, des postes de direction sont aussi concernés par ces réductions d'effectifs. Et ceux qui travaillent devant un PC à travers le monde n'ont encore rien vu, selon Stéphane Roder, PDG du cabinet AI Builders.
Pour voir qu'aujourd'hui, au final, il y a très peu de gens qui utilisent vraiment de l'IA toute la journée. Pour voir que dans le monde, il y a 1,2 milliard ou 1,5 milliard de PC le jour où tous ces PC...
I'm not sure anymore what I will fight for. Oh, 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 oh. You cannot ring the knell, you may not cry, but keep on wearing.
Si vous avez fait le 1, parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2, parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message.
Principe actif, c'est aussi un répondeur. Au 02 32 62 57 32.
Je vais y arriver, hein. Je vais faire un message.
Sortie, événement, résultats sportifs, coup de gueule, info. Bref, le répondeur, c'est aussi votre zone d'expression radiophonique.
Paris, t'as eu un appel qui t'a perturbé.
Mais non, c'est pas un appel qui m'a perturbé.
Allô ? Je suis tout nu et je suis en train de me perturber.
Les messages sont diffusés à l'antenne dans la matinale à 8h15. Alors prenez possession des ondes et laissez vos messages après le bip au 02 32 62 57 32. On attend vos messages.
Hoy tengo salsa, mojito, coctelería.
Quiero dormir como la calabacita. ¿A qué hora envío ni nada?